Un, deux, trois. À la vie depuis notre studio de Mistral d'Occitanie. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Thépeau. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors Stéphane, vous avez 53 ans, vous êtes né dans le 95 à côté de Paris, vous êtes journaliste à Toulouse, vous avez fait vos études à Toulouse également, donc vous avez fait l'IEP, Sciences Po, un DEA de Sciences Politiques à l'Université de Toulouse Capitole. On ne rit pas, Stéphane, ne me perturbez pas.
Oui, peut-être.
Je parle trop vite, pas assez.
Non, c'est bien.
C'est vrai ? Je suis pas sans stress.
Mais la perfection n'est pas de ce monde, donc on a le droit
oui,
aussi
alors,
de,
puis
fourcher,
alors là,
de fourcher une fois.
Une fois, d'accord. Non. Pas deux, j'ai compris. Non, c'est bon. Irène Finkel, bonjour. Bienvenue dans notre émission Ainsi va la vie, depuis notre studio de l'Oustal d'Occitanie. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Thépeau. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Stéphane, vous avez 53 ans, vous êtes né à côté de Paris dans le 95, vous êtes journaliste à Toulouse, vous avez d'ailleurs fait vos études, vous avez fait donc l'IEP, Sciences Po et un DEA de Sciences Politiques à l'Université de Toulouse Capitole. Parallèlement à cela, pendant la durée de vos études, vous étiez technicien, animateur, puis journaliste à Radio Villefranche de 1982 à 1986 et en même temps journaliste à La Volonté Paysanne de Rodez de 1984 à 1986. Par ailleurs, vous avez fait beaucoup d'activités, on peut en énumérer quelques-unes. Vous avez été enseignant presse, écrite et radio à l'école de journalisme à Toulouse. Vous avez été également rédacteur en chef aux réalités de l'écologie. En 1995, alors que vous aviez 31 ans, vous êtes l'auteur pour les éditions Gallimard d'un guide « La France au fil de l'eau ». Également, on peut citer que de 1995 à 1999, vous êtes de nouveau enseignant vacataire au Centre de formation et de perfectionnement de journalisme. Vous encadrez des stages sur le mieux traiter les questions d'environnement et d'aménagement du territoire. Vous travaillez comme pigiste à Pyrénées Magazine de 1997 à 2000. On vous retrouve à Toulouse de 2000 à 2002, rédacteur chargé de la politique de la ville et correspondant à l'Express ces deux mêmes années. En octobre 1996, vous devenez correspondant pour le journal Le Monde. Vous l'êtes toujours d'ailleurs 21 ans après. En 2002, c'est pour le magazine Le Point, vous l'êtes toujours aussi. Je signale également un livre sur l'agriculture et les paysans dans l'Aveyron que vous finissez en février 2017 aux ateliers Henri Dougier, laboratoire de réparation sociale. Depuis 8 mois, vous êtes journaliste à Médiacité pour la région de Toulouse et également à l'INRA depuis 9 mois où vous officiez sur des enquêtes et reportages pour une nouvelle revue. Je finis sur votre anti-guide touristique pour les néo-résidents de Toulouse et du Midi toulousain. Mais cela, j'aimerais qu'on en reparle un peu plus tard, qu'on revienne dessus, parce que j'aimerais justement que vous nous expliquiez l'intérêt de ce guide. Stéphane, ça fait beaucoup de pages noircies, tout ça, depuis pratiquement 30 ans. Il y a eu des enquêtes, des rencontres, des voyages. Mais on va revenir un peu à la source, le journalisme. Pourquoi ? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, vous avez des parents qui étaient journalistes, ça a été une envie, comment c'est venu ?
Non, mes parents n'étaient pas du tout journalistes, c'était pas franchement une envie personnelle, c'était plus un mouvement collectif. On était une bande de jeunes à Villefranche-de-Rouergue, Aveyron, 1981, les élections présidentielles, et on parlait à l'époque de radio libre. Bon, il se trouve que c'est Mitterrand qui a gagné et donc les radios locales ont été autorisées. Je pense que si, on ne va pas refaire l'histoire, Giscard avait été élu pour un deuxième mandat, les radios auraient aussi été autorisées puisque dans la logique libérale du président Giscard d'Estaing, il y avait aussi cette volonté d'ouvrir les ondes. On sentait bien dans les années 80 que se terminait une certaine époque, celle de l'ORTF, d'un certain monolithisme et monopole. Ça semble assez fou aujourd'hui, alors qu'on a des centaines de radios, de télévisions, Internet, de penser qu'on n'avait que quelques chaînes de télévision, toutes publiques, quelques chaînes de radio, publiques ou privées, mais périphériques, Europe 1, RTL, etc., pour donner le change à Radio France. Voilà, et donc avec une bande de copains, on s'était intéressé aux premiers émetteurs qu'on pouvait acheter en Italie et qu'on ferait bien une radio à Villefranche-de-Rouergue, Aveyron. Voilà, c'est un mouvement de groupe et je me suis pris au jeu. J'ai appris d'abord la technique. J'étais mort de trouille la première fois que j'ai dû parler dans un micro avec la lumière rouge qui s'est allumée. Ça s'est un peu passé depuis.
Oh, combien je comprends. Oui, c'était le début des années 80, vous étiez adolescent. Il y avait tout à faire au niveau des radios. Je crois que c'était la bonne époque, effectivement.
C'était une époque.
Et puis, quand on est adolescent, on a besoin d'un moyen d'expression.
Ouais, tout à fait.
C'était,
puis la musique, c'est
extraordinaire.
Important aussi, la musique. Voilà, pouvoir passer la musique qu'on aime, qu'on veut. Voilà, j'ai pas fait que du journalisme. J'ai commencé par bidouiller la technique, comme on dit. J'étais de l'autre côté de la vitre. Et après, progressivement, j'ai aussi appris à poser des questions. Voilà. Et puis à effacer les questions, parce que ce n'est pas ça qui est important, c'est les réponses.
Oui, bien sûr. Qui amènent à d'autres questions, pas forcément écrites à ce moment-là. Donc, vous êtes né, on a dit, en 1964. Vous aviez donc 20 ans en 1984. J'aimerais qu'on s'arrête sur ces 20 ans, sur les 20 ans de Stéphane Thépot. En 1984, vous aviez commencé vos études supérieures déjà ?
Oui, je n'ai pas un souvenir précis de mes 20 ans, un petit peu avant, un petit peu après, oui, mais l'année pile de mes 20 ans.
Ça n'a pas été forcément l'année marquante.
Non, j'étais, comme vous le rappeliez dans l'introduction, qui était malheureusement longue parce que j'ai beaucoup eu d'activités différentes, voilà. Mais à l'époque, je faisais des allers-retours entre Toulouse, où je finissais mes études, je crois que j'étais encore étudiant à l'IEP, et Villefranche, où je travaillais comme... je commençais justement comme journaliste. Je pense que ça devait être mes premiers bulletins de salaire. Je travaillais l'été, voilà. Puis après, pendant les week-ends aussi, donc je rentrais tous les week-ends faire de la radio.
Donc le fait de commencer une radio avec vos camarades dans les années 80-81, ça a été une évidence après de faire une école de journalisme ?
C'était, oui, une certaine évidence. J'ai pas fait l'école de journalisme en plus de façon traditionnelle. Parce que, en fait, nous les garçons, dans les années 80, on devait faire le service, l'armée. Et moi, j'ai pas voulu faire l'armée. Et donc, j'ai fait un service civique. Moyennant quoi, il a fallu que je travaille, entre guillemets, pendant 2 ans. C'était pas particulièrement rédhibitoire, quoi, mais on avait un service double dans une radio, enfin, dans une association. Je me suis arrangé pour que ça soit à la radio. Et Et voilà, donc ça s'est fait un peu naturellement, mais j'étais étudiant, en même temps j'étais objecteur de conscience à la radio, je ne me voyais pas, et puis je suis devenu assez papa assez vite aussi, je ne me voyais pas partir à Paris, continuer à faire encore 2 ans d'études, puis il y avait un concours d'entrée, je n'étais pas sûr de le faire, de le réussir. Et donc j'ai réussi à trouver des formations par alternance. En fait. Donc je suis allé à Paris, rue du Louvre, à l'école de journalisme, mais non pas en tant qu'en formation initiale, mais en formation continue. C'est-à-dire que là, je travaillais dans une radio à Figeac, dans le Lot, qui avait racheté la radio de Villefranche. Et donc j'étais salarié. Et en même temps, j'ai fait pendant 2 ans tout un tas de formations, de stages.
Mais comment ça se passait? C'était pas à Paris, c'était à distance.
Non, j'allais à Paris.
Vous faisiez les allers-retours sans arrêt
Sans arrêt, il y avait une session tous les 3 mois à peu près.
D'accord.
Ils ont ouvert à ce moment-là une antenne à Montpellier aussi, l'école de la rue du Louvre. Et donc je me souviens au moins d'une, peut-être 2 sessions à Montpellier et non pas à Paris, ce qui était un peu plus court quand on vient de Toulouse, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que vous aviez comme rêve à l'époque?
Quand j'étais lycéen, ça va peut-être vous surprendre, mais je voulais être photographe. Et donc je dis comme ça pour rigoler un peu, j'ai fait Sciences Po par défaut parce que voilà, mon truc c'était la photo. Et je voulais essayer d'en vivre. Mais comme dans la famille, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc tous les métiers un peu artistiques, ce n'est pas considéré d'abord comme des métiers. Donc il faut un vrai diplôme. Donc il y avait une école, Louis Lumière à Paris, qui formait un BTS de photographe. Ça, c'était sérieux. Il y avait un concours d'entrée. Je me suis retrouvé Salvagram à Paris. On était 300, ils en prenaient 30 et ils ne m'ont pas pris.
Aïe.
Ils m'ont pris à Sciences Po, donc j'ai fait Sciences Po, voilà.
Vous avez continué la photo pour votre plaisir?
Un petit peu pour le plaisir. Je suis content d'ailleurs de ne pas être devenu professionnel. Je vois comment travaillent les collègues photographes professionnels, ceux de la presse et ceux de la non-presse, parce qu'en fait, il y a des allers-retours aussi. Tous les photographes ne sont pas journalistes, mais il y a des photojournalistes. Et je crois que je ne saurais pas faire. C'est très bien de garder une pratique amateur, mais professionnel, c'est autre chose, quoi. Il y a des trucs que je ne saurais pas faire ou que je n'aurais pas envie de faire. Voilà. Quand on est professionnel, il faut savoir faire, y compris les trucs qui ne vous plaisent pas.
Vous aimez aller voir des expositions de photos, des choses
énormément.
Comme ça? Oui.
Énormément. Puis j'ai repris, comme tout le monde, avec le numérique, quoi. Parce que j'avais appris à développer. Mais c'est compliqué. Monter son labo chez soi, c'est pas toujours évident, quoi. Oui. Voilà. Donc je me suis un peu remis, comme beaucoup de monde, avec l'arrivée du numérique, quoi.
Donc ça, c'était le voilà, je vous ai demandé votre rêve, vous m'avez parlé de la photo.
Oui, c'était vraiment ça.
C'était vraiment ça. Et qu'est-ce que vous aviez comme lecture à l'époque?
De tout. J'ai toujours été lecteur boulimique et...
C'est resté.
Et je lis tout.
Tout.
Tout ce qui me passe sous la main.
Oui, c'est-à-dire du magazine, au roman,
beaucoup
en passant
presse,
par la BD.
Ouais, beaucoup de presse.
Comment vous lisez la presse aujourd'hui?
Beaucoup sur écran,
oui.
Bien sûr. Mais pour rester sur les lectures, pendant une période assez peu de vraie littérature, roman justement, beaucoup d'essais, bon, ça c'était à cause aussi des études. Mais je me remets avec plaisir à la littérature et tous les genres. Hein. Ça peut être du polar, des classiques, des auteurs étrangers, de tout.
Si dans les années 80, on vous avait demandé quel était votre auteur préféré, vous auriez cité qui?
Dans les années 80, je n'avais pas d'auteur préféré. J'ai assez vite eu un attrait particulier pour Camus.
Oui.
Albert Camus. Je me souviens avoir lu pendant mes études à l'IEP une biographie de Lautmann sur Albert Camus, qui m'a beaucoup plu. J'ai pas mal lu de biographies à l'époque. Aujourd'hui, je dirais Nicolas Bouvier, mais c'est une lecture de maturité. Ça faisait longtemps que j'entendais parler de ce type, et le jour où j'ai lu Nicolas Bouvier, waouh! Vraiment waouh!
C'est moi qui... Vous étiez sportif à l'époque?
Oui.
Oui? Vous faisiez quel sport?
J'ai pratiqué beaucoup de sport. Quand je suis arrivé dans la région, je faisais de l'athlétisme, du demi-fond. J'ai toujours fait du foot aussi, comme beaucoup de garçons. Après, je me suis mis au volley. J'ai fait du hand au lycée, comme beaucoup. Du tennis, de la natation. Voilà.
Oui, c'est assez complet. Pas de rugby.
Non, c'est bah, la radio, l'image passe pas, mais je suis pas vraiment taillé pour. Pour le rugby, je suis plus basket, mais j'essaie de m'y mettre sur le tard, mais là c'était irrécupérable, quoi.
Vous êtes resté sportif comme ça toute votre vie?
Non, malheureusement, comme beaucoup aussi, je me suis empâté.
D'accord. Je vous propose tout de suite une première pause musicale. Vous avez choisi Dédé Mainvielle, La vie d'ici pas.
Si va la vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie les premiers pas dansés à devant des écoliers. Balancés dans l'air, sans avoir d'air, saoulés dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'étirait, rissait mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques époques aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dis, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace est à pas passer. Sur ton attendement, tu touches à toucher, vous les vaciles, agis là du bout des doigts, d'aussi nous songe à si tu médises des fois, tu feras suffire maman une note cassée. Casser, on n'est plus jamais dans la scène, la musique a fini, mélodie qui vit, et fine la basse en balélie, casser la balade dans l'horizon. Sur ton attendement, tu touches à toucher, vous les vaciles, agis là du bout des doigts, d'aussi nous songe à si tu médises des fois, tu feras suffire maman une note cassée. Casser, on n'est plus jamais dans la scène, la musique a fini, mélodie qui vit, et fine la basse en balélie, casser la balade dans l'horizon. Si va lui battre la vie ça va, tu l'as dit. Au bal aussi, c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y, l'évasif, vas-y, l'enfant, tout petit déjà. Jadis, on a dit, mais il a la caisse, comme des oublis, la passe, Koumako. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, nous donc, dis, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace est à pas passer. Et si loneliness disparaît tout. T'andrai come bec, qu'un desir ambicius, assurément libera, tu de l'anima sauvage, la cause, come te la hate. T'as beau comprendre, tu que truca, tu que traca, tu que toca, tu que riga, tu que raca, tu que rigo, ragunana, bebe mille coppe, tit cobulut. En quelle copa tu que truca, tu que taca, tu que toca, tu que riga, tu que raca, tu que rigo, ragunana, bebe mille coppe, lut. Ça se vit, puis t'as l'hésitation qui va faire éclater le banc des ateliers. Balancé dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'abus du soufflet, il s'est tiré, il s'est bon, c'est le temps du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques époques aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dans des mots doux, du désir ici, efficace est à pas, c'est toi, toi, ton droit.
Pourquoi ce morceau, Stéphane? Il m'a mis en joie. Je ne sais pas, je trouve.
Eh bien, c'était le but, voilà. Parce que d'abord parce que le titre de l'émission, il y avait C'est la vie, et puis
Ainsi va la vie, oui.
La radio, l'Occitanie, voilà. Et puis André Mavial. Moi, je suis pas fan absolu. Je connais pas tout ce qu'il a fait, mais tout ce qu'il fait, je l'apprécie. Et puis je crois que c'est parce que c'est une valse, voilà. Et que c'est, voilà, c'est entraînant.
Oui, c'est entraînant. Effectivement, ça donne le sourire. Je voudrais finir quand même sur ce qu'on s'est dit sur vos 20 ans. Vous avez dit que vous aviez été papa très jeune. Donc, vous avez une fille qui a quel âge aujourd'hui ?
Ben, elle va avoir 30 ans cette année.
D'accord. Donc, vous l'avez eue effectivement à 23-24 ans.
Voilà.
Jeune papa. Bien... On a vu le Stéphane, on a vu vos 20 ans. J'aimerais qu'on parle de vos 40 ans, parce que justement, 40 ans, c'est, pour un homme, c'est un premier bilan de vie. Vous étiez à Toulouse, donc, toujours à vos 40 ans. Vous en étiez où, professionnellement parlant, à 40 ans ? Donc, 40 ans, c'était 2003-2004 pour vous ?
Ouais, je ne sais plus trop, à force, on ne compte plus les années. J'ai fait beaucoup de choses, peut-être trop de choses, jeune, rédacteur en chef, formé, je suis devenu assez vite formateur, enseigné, etc.
Oui, parce qu'en plus, quand je vous ai présenté en début d'émission, je suis passé assez vite sur ce que vous avez fait, mais vous avez fait...
C'est pas intéressant, nécessairement.
Beaucoup de choses.
On va pas se noyer dans tous ces détails. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses précocement, on va dire, pas simplement... une gamine. Et 40 ans, bah, c'est l'âge où on se fait rattraper, quoi.
Justement, c'est pour ça que c'est l'âge
on
qui...
On n'est plus le petit jeune, quoi. On commence à vous dire vous. C'est aussi l'âge...
On atteint l'âge de la maturité pour vous à 40 ans ?
Oui, enfin, on est toujours le plus mauvais juge de soi-même, donc je ne sais pas si... J'aurais toujours tendance à penser que la maturité, ça sera l'an prochain, quoi. Mais,
c'est bien, il faut...
non, mais ce qui est drôle, en fait, on ne se voit pas vieillir. Je me vois vieillir à travers ma gamine, en la voyant grandir. Mais c'est par exemple de voir un certain nombre de jeunes que j'ai connus, jeunes comme moi, arriver à des situations où moi, Là, je suis mal placé pour savoir où j'en suis, mais dans la société, voilà, et on se tutoie, et aujourd'hui, ils sont à des postes à responsabilité, donc je ne vois pas pourquoi je commencerai à les vous voyez. Mais ça m'embête parce que dans mon métier, jusqu'à présent, je faisais attention à la règle du tutoiement, je ne tutoyais pas des politiques, par exemple, des choses comme ça. Bah là, maintenant, il se trouve que voilà, j'en tutoie parce qu'on se tutoie depuis 30 ans, donc il n'y a pas de raison de changer. Ou alors, il faut être un peu hypocrite quand on est en société, on se dit « vous ». Voilà. Donc je me fais rattraper par ça, parce que pendant longtemps, je suis toujours très scrupuleux dans l'exercice de mon métier. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait une certaine distance, encore une fois, notamment avec les politiques ou des décideurs en général. Et puis voilà, on se fait rattraper par la patrouille, quoi.
Est-ce que vous avez alors les 40 ans, est-ce que c'est un souvenir, est-ce que c'est une période heureuse pour vous?
Il n'y a pas eu de période malheureuse, donc oui, si vous me rappelez que ça date à peu
2004
près, ouais, juste après l'an 2000, c'était une période un peu particulière parce qu'on avait monté ici à Toulouse avec le groupe Le Monde un canard qui s'appelait Tout Toulouse qui a duré assez peu de temps et je me souviens qu'à l'époque donc je bossais déjà pour Le Monde, on avait monté ce truc là, enfin ils avaient monté, moi j'étais un collaborateur parmi d'autres quoi, et puis ça s'est arrêté et puis à l'époque je bossais aussi pour l'Express, j'ai arrêté je sais plus pour quelle raison et puis je commençais à bosser pour Le Point, voilà, parce que quand on peut pas bosser pour deux titres concurrents. Donc voilà, c'est les années 2000, le tournant du siècle, c'était une période où finalement je me suis retrouvé, ce que je faisais déjà un peu avant, à faire essentiellement de la pige, à droite, à gauche. Donc à être, ce que je n'aime pas du tout, c'était journaliste indépendant, quand on vous pose la question, mais alors, mais vous êtes indépendant, à votre compte. J'espère qu'un journaliste est indépendant, même s'il travaille pour un grand média.
Oui, alors là, voilà. Là, on rentre dans un autre débat. Là.
C'est un débat intéressant parce que ce n'est pas ma petite expérience personnelle qui bouleversera les choses. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de voir que de plus en plus, ce métier se précarise. Voilà, et que quand je vois des jeunes qui veulent devenir journalistes, je me vois, moi, jeune à leur âge, mais je me dois de leur dire que ça ne va pas être facile. Et pour autant, c'est le plus beau métier du monde, donc il n'y a pas de raison de pas y aller. Mais il ne faut pas faire ce métier pour l'argent ou pour la reconnaissance. Voilà, tout le monde n'est pas parti pour Avon Arvor. Les gens qui pensent faire du journalisme pour être reconnu par tout le monde dans la rue, d'abord, ils se trompent, mais après tout, chacun son truc. Parce que ça va être horrible d'être reconnu par tout le monde. Donc, moi, je me suis bien gardé de faire de la télévision et de montrer ma tronche. Ma voix, ça suffit amplement. Mais en plus, voilà, le journalisme n'a pas à être devant. Le journalisme, il est derrière. Encore une fois, se mettre en avant, c'est pas mon truc. Voilà. C'était le seul, d'ailleurs, bémol qu'on m'avait proposé à l'émission. Je me suis dit, putain, une heure à parler de moi, c'est chiant. Non, on va parler de ce que je fais, à la limite. Mais moi...
Je suis désolée pour le blanc, il est voulu sans être voulu, mais je voilà, je suis restée sans voix sur ce que vient de nous dire l'ami Stéphane. J'aimerais savoir quand on reste toujours donc autour des années 2000-2004 à vos 40 ans. Quand on a 40 ans, on a forcément sa vision sur le monde, sur nos contemporains, est différente que celle qu'on a à 20 ans. Alors, je ne veux pas paraître négative, ni être gris, ou enfin, en tout cas, paraître aigri, ce n'est pas du tout mon cas. J'aimerais savoir si vous avez le souvenir, justement, à 40 ans, de vous être dit « j'ai cru à ça et je me suis trompé » ou justement, à l'inverse, « ah bah tiens, je ne pensais pas que sur tel sujet, j'aurais... » de jolies surprises.
Non, j'avais 4 ans en 68, donc je suis pas 68ard. Donc voilà, les années 80, celles où j'ai passé ma jeunesse, on est plutôt considéré comme une génération qui n'avait pas de valeur particulière. Moins que les années 50, 60, on a connu le chômage, le sida, voilà, on s'est quand même pris ça dans la gueule.
Les 30 Glorieuses, c'était encore différent.
Voilà, on s'est quand même pris ça dans la gueule. Voilà, j'ai un excellent copain qui est mort du sida. J'en connais d'autres qui ont... Moi, je n'ai pas ça, voilà, c'est déjà positif. Non, qu'est-ce que vous dire ? Encore une fois, si je fais référence à 68 parce que ça va être l'anniversaire, donc on va nécessairement en parler en cette année 2018, et je vois bien les gens qui se tortillent, est-ce qu'il faut commémorer ou pas, etc. Mais moi, j'ai envie de dire à ceux qui ont vécu cette période-là, moi, j'avais encore une fois 4 ans en 68. Mon père, qui était gaulliste, nous a planqués à la campagne chez mes grands-parents dans le Morvan parce qu'il était gaulliste et il pensait que c'était la Chéanlie qui débarquait. Voilà, à la fois, je suis un enfant de ça parce qu'on est tous enfants de ça. Et à la fois, moi, ce n'était pas mes idées ou à moi. On en a hérité d'un certain nombre. Voilà, les radios libres. Puis, à 40 ans, assez vite, j'ai compris qu'il n'y avait pas de radio libre. Il faut arrêter de raconter des conneries. C'était des radios locales, privées, indépendantes, ce que vous voulez. Mais la liberté, elle n'est pas... d'abord, elle ne se décrète pas. Elle se gagne. Voilà. Donc, on ne vous octroie pas une liberté. La liberté, elle se gagne. Voilà, pour l'indépendance, enfin voilà, d'un certain nombre de choses comme ça. Donc, tout ça pour dire que mon métier a fait que je m'interdirai, je pense toujours, par exemple, d'adhérer à un parti politique. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des convictions, mais elles ne me regardent que moi, je n'ai pas à les imposer au public. Et surtout, je n'ai une carte nulle part, donc je ne peux pas être désillusionné. La seule chose pour laquelle, en revanche, je me suis investi,
Vous le rappeliez au début, j'étais rédacteur en chef d'un canard écolo, ça s'appelait Arrêter de l'écologie, qui se faisait ici à Toulouse. L'écologie, oui, ça c'est quelque chose, je suis prêt à le revendiquer. C'est pas nécessairement... Il y a une composante politique, on va pas la nier, mais c'est pas que. Et alors on peut voir la bouteille à moitié vide en se disant que, bah, avec le réchauffement climatique, tous ces thèmes-là qui sont maintenant bien à l'agenda de tout le monde peut constater ce qu'il en est, chacun peut aussi en penser ce qu'il en veut, mais bref, la planète va pas très bien entre nous. Et ça c'est la bouteille à moitié vide, la bouteille à moitié pleine, c'est qu'enfin on s'en rend compte. Un peu plus que quelques pionniers qui disaient ça, qui criaient dans le désert dans les années 70. Donc il y a quand même une prise de conscience. Jusqu'où ça va nous mener? Moi, ça m'intéresse d'accompagner ce mouvement-là, voilà, de poser les questions et de chercher des réponses. Je ne pense pas avoir la réponse. Voilà. Ouais. Ma conviction, c'est que je n'ai pas de réponse. Je cherche des questions et ça tombe très bien, c'est mon boulot. Voilà. Je pose des questions et je cherche des réponses, mais ce n'est pas moi qui ai la réponse. Voilà.
Vous avez vécu, depuis vos études, vous êtes resté toujours à Toulouse?
Quasiment, je suis retourné un petit peu dans l'Aveyron. Ma fille est née dans l'Aveyron, mais oui, pour l'essentiel, à Toulouse, en fait, quoi. Et j'ai vu, ça c'était aussi quelque chose de passionnant, de voir, quand je faisais l'Institut d'études politiques, c'était dans les années 82, les années de décentralisation, et j'ai vu se mettre en place... ces lois de décentralisation. Et je trouvais ça passionnant, non seulement de l'étudier, mais en même temps de le voir en pratique se faire, puisque à l'époque, j'étais déjà journaliste. Voilà. Je me souviens avoir fait un petit travail pour un prof en DEA de Sciences Po sur les premières élections régionales en 86, à essayer de mesurer avec des outils de sciences politiques en quoi le suffrage universel direct allait changer la composition sociologique de l'Assemblée. C'est pas simplement de savoir ça va passer de droite à gauche ou de gauche à droite. Il se trouve que c'était une région qui était à gauche auparavant, et c'est Dominique Baudis qui a été élu pour la première fois président de cette région. Donc il y avait un changement aussi politique, mais il y avait aussi un changement, et surtout un changement sociologique. D'abord parce que les gens qui siégeaient à l'Assemblée, il n'y avait même pas... L'hôtel de région n'existait pas. Hein. On allait se réunir dans un amphithéâtre du CNES au bout de Rangueil. Voilà. Et c'est intéressant de voir la naissance de cette institution et de voir ce qu'elle est devenue maintenant. Voilà. Donc j'ai de très bons souvenirs de Dominique Baudis. J'ai aussi de bons souvenirs de Marc Sancy qui lui a succédé comme président de région, de Martin Malvy, je l'ai croisé encore hier dans la rue. Voilà, ce sont des gens qui, à leur façon, ont fait aussi avancer le schmilblick de la région. Et moi, c'est quelque chose auquel je crois. Je suis né, vous l'avez rappelé, à Montmorency, Val d'Oise. Mais quand Le Monde, par exemple, m'a proposé dans les années 2000 de remonter à Paris, puisqu'ils avaient fermé la boutique ici à Toulouse, j'ai dit non, moi je reste.
Vous vous considérez comme étant toulousain maintenant?
Ah ouais. Je suis toulousain, je suis occitan. Je ne parle pas un traître mot occitan, mais je suis occitan et je suis toulousain.
Non, c'est pas grave, ça s'apprend, voilà. L'occitan.
Oui, après je ne suis pas doué pour les langues, mais c'est un état d'esprit aussi.
Bien sûr.
C'est pas qu'une langue, c'est un état d'esprit.
Donc toulousain, occitan.
Ah oui.
C'est une belle ville, Toulouse. On y est bien.
Sans chauvinisme. C'est bien qu'on ait aussi agrandi à Montpellier. J'y suis allé plusieurs fois pour des raisons professionnelles. C'est une chouette ville, Montpellier aussi. Oui. Villefranche-de-Rouergue, c'est pas mal.
Oui.
Villefranche-de-Lauragais aussi.
Alors justement, ben, puisqu'on parle de Toulouse, j'aimerais maintenant qu'on parle de ce fameux guide. On l'a évoqué en début d'émission. Première édition, j'ai vu, dans les années 2010-2011... Il y a eu une seconde édition après. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que ce fameux guide donc pour les arrivants toulousains?
Alors, l'idée n'est pas de moi. Ce sont des éditeurs qui sont devenus des amis à Paris, qui anciens journalistes, qui se sont dit, voilà, à Paris notamment, il y a plein de gens qui rêvent de déménager. Pour aller vivre dans une autre grande métropole en France. Donc ils ont ciblé un certain nombre de villes, dont Toulouse, bien sûr. Et ils m'ont demandé, comme dans les autres villes, ils ont cherché aussi des journalistes, et il cherchait des journalistes pour écrire donc un guide qui donne les clés de la ville, qui explique un peu d'histoire, un peu d'économie, un peu de politique, un peu de sociologie, et puis qui donne aussi les adresses, voilà, des trucs très pratiques. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui débarque à Toulouse, qui ne connaît pas, et on lui offre en une centaine de pages un instantané à plusieurs facettes de ce que c'est que cette ville. En bien et en pas bien, hein, il ne s'agit pas de faire du chauvinisme et de dire c'est la plus belle ville du monde.
Bien sûr, mais alors... Quel est le contenu? Comment trouver un logement ou inscrire ses enfants à l'école? Quel est le contenu de
ce
guide?
Ce sont des questions très pratiques. Et mine de rien, quand on est journaliste, ce n'est pas évident de répondre à des questions aussi pratiques que voilà, et je fais comment pour inscrire mes
enfants à l'école.
Ben voilà, c'est pas une grande enquête d'investigation Mediapart, mais c'est aussi une question à laquelle il faut essayer de répondre. Ouais.
Et donc ça, c'est un bouquin qu'on trouve où?
Un peu partout. Après, moi, je fais ma part, c'est la rédaction. Et puis après, c'est la maison d'édition qui
Donc c'est réédité chaque année, il y a une mise à jour.
Là, je vais travailler sur la troisième édition. C'est un guide, donc un guide par définition, ça se périme très vite. Et donc là, je vais travailler sur la troisième édition. J'ai vu mon éditrice là, début de l'année à Paris. On a convenu déjà de la date de sortie de la troisième édition. Et c'est drôle parce que c'est un bouquin donc, qui revient à intervalles réguliers. Il faut l'actualiser tous les 2-3 ans. Et entre, à chaque fois que je vois quelque chose, etc., je me le note dans un coin pour...
Pour enrichir. Voilà. Rappelez-moi le nom.
Alors,
du
ça s'appelle S'installer à Toulouse, tout simplement.
Tout simplement.
Voilà. Et puis, entre-temps, là, quand j'y suis passé, à Paris, ils ont maintenant tout un mur. Ils ont s'installé à Bordeaux,
dans toutes les villes
à Montréal, à New York, à Londres, à Bruxelles. Voilà.
Quelle maison d'édition?
C'est une petite maison d'édition qui s'appelle Héliopole, qui a été fondée pour la circonstance, qui édite maintenant aussi d'autres ouvrages, mais qui ont fait ce pari. Je trouve ça assez. Ça m'a fait plaisir de les aider aussi, parce que c'était. Voilà, c'est pas Gallimard, c'est pas.
Bien sûr.
C'est pas le Petit Futé, c'est pas le Routard, pardon, chercher les guides connus. Et ils ont cette définition que j'ai trouvée, bon, c'est très marketing, mais c'est très vrai. C'est un anti-guide touristique. J'ai bossé pour un guide touristique, vous le rappeliez, pour les éditions Gallimard. On était plusieurs sur les canaux.
Oui, sous forme d'enquête.
Mais là, c'était plus un guide touristique classique. On sait les choses qu'il faut... cochés qui sont partout dans tous les autres guides, etc. Là, c'était justement pas à destination des touristes. C'est des gens qui veulent rester. C'est pas simplement je viens quand il fait beau et je repars et c'est chouette Toulouse. Non, c'est comment on vit à Toulouse tous les jours de l'année, y compris quand il fait pas beau.
Alors, juste parce que c'est bien aussi de dire des fois des choses qui vont pas bien, tout ne va pas toujours bien. Vous dites justement dans ce guide d'installation au Nouveau Toulousain, on indique les choses qui sont bien et les choses qui sont pas bien. Alors qu'est-ce qui est pas bien à Toulouse?
Qu'est-ce qui est pas bien à Toulouse, mon Dieu?
J'ai envie de donner une réponse à tout de suite.
Allez-y.
Trouver une place pour se garer.
Bah oui, comme dans toutes les grandes villes. Ça fait partie des choses toutes bêtes. Je ne sais plus ce que je leur explique. Moi, j'ai longtemps habité en plein centre-ville, juste derrière le Capitole. Je leur explique que si vous n'avez pas un parking, vous êtes foutus, quoi.
Bien sûr.
Voilà. Alors, beaucoup de Parisiens n'ont même plus de bagnole, donc la question ne se pose pas. C'est plutôt s'ils vont habiter en deuxième ou troisième couronne, où là, il faut leur expliquer que non seulement il leur en faut une, mais deux ou trois. Et voilà.
Justement, votre guide, c'est pour Toulouse, mais également...
Ah oui, j'ai insisté...
Pour que ce soit sur la région
auprès
également.
Auprès des éditeurs, pour dire... Alors, c'est pas la grande région,
oui, ça couvre
surtout
pas l'Occitanie,
depuis qu'elle a
grandi.
Mais on a rajouté Midi Toulousain, parce que, bon, voilà, c'est Toulouse et son
agglomération.
Sa sphère d'influence. Je crois que je les envoie, je ne sais pas si je ne vais pas changer quand même la formule parce qu'elle date maintenant un petit peu, mais on a une formule où on leur propose une journée en voiture justement à découvrir les environs et je les envoie quand même jusqu'à Castelnaudary dans l'Aude, quoi. Parce que Toulouse va jusque dans les départements limitrophes.
Stéphane, je vous propose une deuxième pause musicale et alors en deuxième choix, vous nous avez demandé une chanson d'Alain Bachoun. Fantaisie militaire.
au pays des matins calmes. Pas un bruit ne s'ouvre, rien ne transpire des ardeurs. J'aimais quand je t'aimais, j'aimais quand je t'observais. J'étais d'attaque. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldat sans joie va déguerpir. L'amour t'a faussé compagnie. Des nuits sans voir le jour, à se tenir en joue. Et moi à ses pieds, passé à tenter de s'endormir hanté, ne plus savoir. Je sais plus qui tu es, qui a commencé, quelle est la mission. Soldat sans joie va déguerpir, l'amour t'a faussé compagnie. Sais-tu que la musique, sais-tu? Sais-tu qu'un salaud a bu l'eau du nénuphar? L'honneur, tu l'as perdu sur ce lit de bataille. Soigne les hommes à poigne, soulage la pâtissière. R, 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 R. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldat sans joie va déguerpir, l'amour t'a faussé compagnie.
Monsieur Alain Bachoum, qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette chanson ?
Cette chanson-là, pas plus que les autres, c'est Bachoum dans son intégralité et Bachoum sur scène, parce que cet album est certainement un des plus beaux qu'il ait fait, et quasiment tout ce qu'il a fait est bon, mais sur scène, c'était encore plus, quoi.
Vous l'avez vu à Toulouse ?
Je l'ai vu plusieurs fois à Toulouse. La toute dernière fois, c'était sur le bassin de Thau. Je ne me souviens plus. C'était, tout le monde savait qu'il était malade, qu'il allait crever, quoi. Et, Cette tournée-là, je l'ai vue deux fois. Il est venu dans la banlieue de Toulouse. Je me rappelle plus une petite commune où vit Majid Cherfi. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont eu. Et c'est des amis qui m'ont dit il va passer. Et j'y croyais pas parce que c'était vraiment un tout petit bled. Et je savais qu'il était malade. Et donc je me suis dit c'est un fake, quoi. Et les amis étaient là-bas. Ils m'ont dit si, il est là. Donc j'ai pris la voiture, j'ai filé et je me suis garé sur le stade. Et j'ai entendu sa voix monter comme un Lego. J'ai hésité entre ça et comme un Lego, mais. L'entendre avant de le voir, c'était vraiment génial.
Ouais, il était là.
Ouais.
Stéphane, aujourd'hui, vous avez 53 ans. Mm-hmm. Un bilan ?
Un bilan sanguin, un bilan de santé ?
Non, un bilan de vie ?
Non. Je prends chaque jour comme il vient. J'essaye de ne pas trop me retourner vers le passé. Voilà, ce qui est passé est passé.
Racontez-moi une journée de Stéphane aujourd'hui. Bon, pas aujourd'hui en face de moi, mais généralement.
C'est d'une. Je dirais pas une banalité à pleurer, parce que doit y avoir malheureusement encore plus banal, mais enfin, d'abord, il n'y a pas de règles établies sur la journée entière, et c'est peut-être aussi ce qui fait l'intérêt de ce métier.
Bien sûr.
Je ne sais jamais ce que je vais faire le lendemain. Et à la fois, il y a quand même une trame, c'est-à-dire que. J'ai pris l'habitude de me lever tôt, et quand je dis tôt, c'est vraiment très tôt. Ça, c'est une habitude que j'ai contractée à l'époque où je faisais de la radio et je faisais une revue de presse. Et donc, je me levais avant tout le monde pour en lire les journaux, et c'est un petit plaisir qui m'est resté. Aujourd'hui, je ne vais plus acheter les journaux, ça serait bien compliqué d'ailleurs, mais je les ai sur Internet. Et donc, quand je me lève, je fais ma revue de presse sur Internet. Et comme on est maintenant avec les réseaux sociaux, ben, je la partage sur Internet. Donc, grosso modo, jusqu'à 8h30, 9h, voilà, je lis la presse, je partage Facebook, Twitter, etc.
Vous travaillez de chez vous ?
De chez moi.
D'accord. Vous habitez à Toulouse-Centre ?
Oui, au centre de Toulouse. Oui.
D'accord. Voilà. Okay.
Et puis après, bah, la journée commence, quoi, en fonction de ce qu'il y a à l'agenda. Coup de téléphone, allez. Sur le terrain, c'est un fil à la patte, mine de rien, les téléphones sans fil et autres. C'est que si on n'y prend pas garde, on est rivé dessus en permanence.
Ça, c'est certain.
Et donc, il faut s'astreindre à aller voir les gens. Pour de vrai, et pas simplement les contacter, ce qui est tellement facile, en passant un coup de fil ou en laissant un message sur les réseaux. Il faut aller sur le terrain, il faut voir, il faut... Voilà. Et donc, mais même ne serait-ce qu'aller faire ses courses, quoi. C'est aussi une façon, je plains les gens importants, entre guillemets, qui ne savent plus le prix d'une baguette, parce qu'en fait, ils ne l'achètent plus, ou le prix d'un ticket de métro.
D'un croissant ? Non, c'était un pain au chocolat, je ne sais plus.
Ben voilà, ça fait partie de la vie aussi. Donc, je suis content de partager la vie du Pékin moyen, quoi. Voilà. De partager une vie de quartier, voilà, parce qu'au bout d'un moment, on croise à peu près les mêmes personnes. Donc, il y a un dissonance. On ne peut pas savoir quand, mais la vie de quartier se fait. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où je ne suis pas du tout dans le quartier, parce que mon boulot m'amène loin, et c'est très bien aussi. Voilà.
Stéphane, vous n'avez jamais pensé à faire de la politique ?
Du tout.
Ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse ?
Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je considère que c'est même pas contradictoire, c'est contre-indiqué par rapport à l'idée que je me fais de mon métier.
Et plus tard, demain ?
Peut-être à la retraite, mais je doute que je me mette vraiment à la retraite un jour. Donc non, il n'est pas question de changer, de passer de l'autre côté de la scène. Voilà. C'est vraiment une question de limite à ne pas franchir, pour moi. On ne peut pas être journaliste et avoir un mandat, ou même briguer un mandat. Je peux à la limite le comprendre pour des journalistes nationaux qui, je l'ai vu à plusieurs reprises, ont une vie locale. Et rejoignent une équipe municipale, voilà, parce que c'est de la politique concrète, il n'y a pas nécessairement une étiquette politique derrière. Mais à partir du moment où on peut mettre une étiquette politique sur un journaliste, pour moi, il est mort. Il est plus crédible par une partie de l'électorat et du lectorat. Donc non, c'est hors de question de
voilà, sur le coup, il perd justement son indépendance.
Il peut gagner autre chose aussi, mais surtout, il faut faire le choix. J'ai croisé, pas plus tard qu'hier, une ancienne collègue qui maintenant est députée, qui bossait à France 3. Voilà, elle est députée En Marche. Grand bien lui fasse. Elle a parfaitement le droit. Moi, je n'aurais pas fait ce choix, mais d'autres peuvent le faire et je ne le critique pas. Mais à mon sens, quand on a fait ce choix, tout retour en arrière est impossible.
Bien sûr.
On en parlait un petit peu avec Dominique Baudis à l'époque. Voilà, il a été journaliste. C'est vrai que quand on était journaliste, on a toujours tendance à le rester. Même quand on ne l'est plus, on a des réflexes. Mais revenir au journalisme, Baudis a essayé de le faire à un moment, mais un poste de direction, puisque quand il a quitté Toulouse, à un moment, il s'est retrouvé au Figaro assez brièvement. Après, il est passé au CSA. À l'autre bord, Noël Mamère, que j'ai connu aussi dans ma vie, entre guillemets, écolo. Voilà, il était connu un peu comme Dominique Baudis parce qu'il faisait de la télévision aussi. Donc il y a aussi cet aspect-là. C'était des gens qui étaient déjà connus de la France entière avant de se lancer en politique. Noël Mamère, à partir du moment où il s'est retrouvé maire et député à Bègles, il a plus pensé faire du journalisme. Voilà, il y a un moment, il faut choisir. Il n'est pas interdit à un journaliste de se lancer en politique. Je trouve, en revanche, plus que compliqué de faire machine arrière. Une fois qu'on s'est lancé, on s'est lancé. Et j'aime trop, moi, ce métier pour le lâcher.
Alors, on va revenir à Stéphane Toulousain. Mm-hmm. Vous aimez vous promener dans partout où il y a des endroits, des endroits sympathiques que vous préférez, que vous avez envie d'indiquer à nos auditrices et à nos auditeurs. Des bords de Garonne, des choses comme ça. Vous vous promenez beaucoup ?
Je fais. Il y a deux choses. Il y a des balades pour la balade, beaucoup à pied quand c'est à Toulouse. Et là, c'est souvent des balades photographiques. Voilà, quelque part, j'ai gardé l'œil photographe. Donc, quand il y a une certaine lumière, il y a des sites. Il y a effectivement les bords de Garonne, les bords du canal. Mais bon, quand on les a fait 10 fois, 20 fois, moi, j'en ai jamais marre. Mais on sait aussi à quel moment il faut y aller parce qu'il va y avoir la bonne lumière. Ou alors, c'est pas le lieu qui décide, c'est la lumière. Quand vous avez certaines lumières, à certains moments, il peut m'arriver de tout plaquer pour aller me balader, pour profiter d'une lumière. C'est les choses qui arrivent. Après, c'est plutôt, même en reportage, en baladant en dehors de Toulouse, voilà, il y a des endroits, l'Aubrac, par exemple, c'est un endroit que j'aime particulièrement. L'autre jour, je suis allé voir ma mère qui habite du côté de Genève. J'ai fait exprès de passer par l'Aubrac plutôt que par le Languedoc, par l'autoroute, où ça va plus vite, parce que je savais qu'il y avait de la neige et je voulais voir l'Aubrac sous la neige. Voilà.
Stéphane, quel est le dernier film que vous ayez vu au cinéma ?
C'est une bonne question. C'est quoi le dernier ? Je ne le retiens pas habituellement. Au cinéma, je ne sais plus. Aidez-moi, qu'est-ce qui est sorti récemment ?
Le crime de l'Orient Express ? Star Wars ?
Non, Star Wars, je n'irai pas voir ça. Il paraît qu'il n'est pas bon celui-là.
Non, je l'ai vu, je confirme, il n'est pas bon.
Voilà. Au cinéma, Frédéric Wiseman, c'est un documentariste américain, new-yorkais, qui a plus de 80 ans et qui a fait un documentaire fabuleux qui dure quasiment 4 heures, enfin plus de 3 heures, sur les bibliothèques publiques de New York. Et vous ne voyez pas tant passer. Et j'ai appris, parce que je suis fou...
C'est au cinéma actuellement, ça ?
Le film était passé à l'American Cosmograph au mois de décembre. Et surtout, je me suis mordu les doigts. Enfin, j'avais beaucoup de boulot, donc j'avais du mal à sortir au cinéma ou au théâtre. Et j'ai appris, en regardant le programme, que Frédéric Wiseman était à Toulouse la veille, dans la même salle de cinéma. Et j'aurais vraiment apprécié de l'entendre, parce qu'en plus, il est parfaitement francophone. Et puis, c'est un vieux monsieur de 80 ans. Voilà, pour moi, c'est un maître... Et j'aurais bien voulu l'entendre, quoi, parce que Je me suis fait offrir, il y a trois coffrets de ses films précédents. Donc je regarde régulièrement en ce moment. Mais là, c'était son dernier film. Donc ça s'appelle, je confonds maintenant, c'est pas National Gallery, c'est un autre qu'il a fait, mais Public Library. Et c'est donc tout le travail qui peut être fait, beaucoup de travail social notamment, dans les différentes bibliothèques publiques de New York. Et c'est un organisme mi-public, mi-privé, à l'américaine, qui vit grâce à une fondation et des riches mécènes qui ont mis de l'argent pour aider les gens à accéder aux livres, à la culture, et pas simplement aux livres papier, à la culture en général. Et voilà, c'est de la politique, si vous voulez, dans un certain sens. C'est montrer que l'Amérique, c'est pas que Donald Trump. Voilà, là, c'est politique.
Vous voyagez à l'étranger ?
Oui, ça m'arrive, oui.
Pour le plaisir ?
Ah bah oui,
tant qu'à faire. Jamais pour le travail ?
Pour le boulot, bah non, parce que moi, je suis un journaliste local, entre guillemets. Le plus loin que je suis allé, c'est... Pour Le Monde, je suis allé dans les Asturies pour voir les ours et les loups, faire un reportage. Et quand je bossais pour Pyrénées Magazine aussi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me rendre de l'autre côté des Pyrénées, faire un peu les Pyrénées espagnoles et françaises, voilà, catalanes, basques, choses comme ça. Mais après, le reste, c'est des voyages d'agrément, oui. Ça m'est arrivé d'aller quand même au-delà des frontières.
Qu'est-ce qu'il y a comme livre actuellement sur votre table de nuit ?
Il y en a toujours une pile entière. Je suis en train de lire L'homme qui aimait les chiens, qui raconte en parallèle l'exil de Léon Trotsky et la vie de Ramon Mercader, qui est le type qui va lui donner un coup de piolet dans la tête à Cuba. Je lisais un très beau livre de photos de Willy Ronis, avec des textes de Didier Daninck. Voilà. J'ai commencé, parce qu'on me l'a offert à Noël, le dernier bouquin sur Desproges, édité par sa fille.
J'adore Desproges. Désolée pour la parenthèse, là, j'ai pas pu me retenir.
Mais qui n'aime pas Desproges ?
Oh,
qui se dénonce ?
Il y en a certainement. Mais Stéphane, nous voilà déjà à la fin de l'émission. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir.
Au plaisir, au revoir.